Merci. Je vais demander à mon épouse Esther de venir nous faire la lecture. Nous allons lire ce matin Matthieu 18, les versets... En fait, Esther va nous faire la lecture des versets 15 à 35. Et ceux qui attendent les versets 15 à 20 vont rester un peu sur leur faim. On va revenir sur ce passage dans deux semaines. On va se concentrer sur la deuxième partie du passage ce matin. Je devais vous mentionner aussi, avant qu'on passe à la lecture des Écritures, le livre « Changer vraiment comment » est 30 $. Alors peut-être que vous n'êtes pas en mesure de l'acheter cette semaine, c'est pas un problème. Je voulais vous mentionner ça. Et on m'a mentionné aussi que Michael va enseigner ce soir dans Timothée. Donc à 18h30, il va y avoir un service pour ceux qui désirent être ici à 18h30. Dans Timothée, la suite. Matthieu 18, 15 à 35, on va écouter la lecture de la parole de Dieu.
Verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. » mais jusqu'à 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur.
Tout un passage, hein? Jésus est tellement, tellement intransigeant des fois. Je mentionnais dans la classe ce matin, on était exactement dans le même passage dans le cours de vie de couple. Et puis, Mark Dever, un pasteur que j'aime beaucoup, je vous l'ai déjà mentionné d'ailleurs, dis souvent, si tu as des réformes à apporter dans l'Église, va pas vers les lettres de Paul. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais c'est Paul, c'est un intellectuel, il est compliqué, tout ça. Va dans les Évangiles. Parce qu'il n'y a personne d'aussi intransigeant et révolutionnaire que Jésus. Puis, ben, c'est Jésus qui parle. T'sais. Mais c'est tout un passage extrêmement exigeant. Dur à entendre. Dur à entendre. Juste des nouvelles concernant Hélène, notre sœur Hélène Lapointe. Ceux qui ne sont pas au courant, qui n'êtes pas sur la liste d'envoi de courriel, notre sœur a reçu un diagnostic la semaine dernière. Elle est atteinte d'un cancer du côlon, l'épouse de Marcel Lapointe. Elle était opérée jeudi de cette semaine. Donc, c'est une intervention très rapide. Je n'ai pas d'informations sur... à savoir si c'est un cancer qui est sous une forme fulgurante ou quoi que ce soit. Ça, j'ai vraiment pas de détails. C'est sûr qu'ils ont fait l'intervention très rapidement. Marcel m'a communiqué qu'ils étaient en paix, sereins, confiants que Dieu était au contrôle de toute la situation. Alors, l'intervention a eu lieu. Ce que j'ai entendu, c'est que ça s'était bien passé, mais j'ai pas plus de détails sur la suite. Est-ce qu'il va y avoir des traitements? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui va suivre? Tout ça. Alors, pour l'instant, elle est à l'hôpital Pierre Boucher. Beaucoup de fatigue, elle demande qu'il n'y ait pas de visite pour l'instant, mais ils apprécient énormément vos prières. Alors, si vous voulez continuer à prier cette semaine pour notre sœur Hélène, notre frère Marcel, c'est quand même une année difficile. Marcel a eu des pontages dans l'année, et donc lui-même est en train de terminer de se relever de cette épreuve-là physique, et le Seigneur permet cette nouvelle épreuve. Mais par la grâce de Dieu, vraiment leur foi est ferme, ils sont en paix, confiants dans le Seigneur. Alors, si vous le voulez bien, on va tout de suite se courber dans un mot de prière. On va les amener au Seigneur et on va disposer notre cœur à recevoir la parole de Dieu. Bon Père, nous sommes assemblés en ton nom, dans le nom en fait de Jésus-Christ. C'est ce nom qui nous unit, Seigneur. C'est ce nom qui nous donne de la compassion les uns pour les autres. C'est ce nom qui nous apprend à nous aimer les uns les autres. C'est ce nom qui nous apprend à supporter les épreuves, supporter les fardeaux les uns des autres. C'est ce nom qui nous conduit à nous mettre à genoux les uns pour les autres dans la prière. C'est ce nom qui nous apprend à nous pardonner les uns les autres. C'est en ton précieux nom, Jésus-Christ, que nous sommes assemblés, comme une communauté de gens aimés, pardonnés, graciés. Seigneur, nous venons devant toi ce matin spécialement en ayant à l'esprit notre sœur Hélène qui passe par cette épreuve, cette nouvelle épreuve pour leur famille. Merci pour sa foi. C'est ta grâce, Seigneur, qui donne la foi dans des circonstances semblables, quand les épreuves se multiplient. Merci, Seigneur, pour la foi que tu leur donnes. Viens les soutenir, Père. Que ta bonne grâce soit avec eux, comme la grâce de ton Père Jésus a été avec toi dans ce jardin où tu as été fortifié. Seigneur, on te prie de disposer leur cœur à continuer à dire merci dans l'épreuve. Qu'ils puissent, Seigneur, avoir ce chant dans le cœur. Ta bonté vaut mieux que la vie. Père, j'aimerais te prier pour tous les frères et sœurs qui sont retenus chez eux par la maladie, retenus chez eux par des épreuves. Viens, Seigneur, les fortifier dans leur foi. Aide-nous comme communauté, comme famille de Dieu, à les entourer, à les chérir, qu'ils puissent sentir, Seigneur, notre affection, nos prières, notre amour et par des gestes concrets, voir la main de Jésus les aimer encore. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui se sont éloignés de la famille de Dieu et qui sont errants, Seigneur. Ils se sont égarés, ils ont chuté dans leur course. Et tous ceux d'entre eux, Seigneur, qui sont bien tes petits-enfants, tu les aimes, ton regard ne s'est pas détourné d'eux. Sers-toi de nous, Seigneur, pour aller les chercher avec humilité. pour aller les reprendre, pour aller les encourager, pour aller les exhorter, pour aller les aimer, Seigneur. Montre-nous comment agir à leur égard, afin qu'ils sachent que nous avons leur salut, leur âme à cœur, Seigneur. Que nous ne nous estimons en rien supérieurs à eux, Seigneur. Au contraire, c'est avec humilité que nous les approchons et que nous les aimons. Je te prie, Seigneur, pour ceux d'entre nos enfants qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ, ceux d'entre nos parents, nos pères, nos mères, nos frères, nos sœurs, nos enfants chéris, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Père, si tu ne les attires à toi, ils ne viendront pas à la connaissance de Jésus-Christ. Aie pitié d'eux, Seigneur. Aie pitié d'eux, Seigneur. Accorde-nous la force d'être trouvés fidèles pour être des intercesseurs qui allons nous tenir à la brèche, Seigneur, comme l'apôtre Paul, qui était prêt à être maudit s'il était possible pour que sa nation soit sauvée. Seigneur, aide-nous à être trouvés fidèles. Nous te confessons, Seigneur, toutes nos infidélités. Combien de fois nous avons abandonné, quitté la brèche, Seigneur, arrêté d'intercéder. Par découragement, par négligence, par paresse, par égoïsme. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Donne-nous cette repentance qui vient de toi pour que nous intercédions. Mais viens, Seigneur, sauver. C'est toi qui sauves. C'est ta grâce qui sauve. Seigneur, nous voulons célébrer tes bontés envers nous qui sommes ici ce matin. Ta fidélité, ta grâce, ton amour, ton pardon, qui nous permet, Seigneur, d'avoir un sourire sur les lèvres, la joie dans le cœur de savoir que notre bon Père prend soin de nous. Viens nous rencontrer ce matin. C'est ta parole que nous voulons entendre, Seigneur Jésus. Tu parles encore aujourd'hui par ta parole. Quand tes prédicateurs prêchent fidèlement ta parole, Seigneur, c'est ta voix, ô Dieu, que tu fais entendre. Que je sois trouvé fidèle par ta grâce, Seigneur, et que ta parole soit justement prêchée ce matin, et que ton esprit nous aide à la recevoir. C'est dans le nom de Jésus-Christ qu'on prie, Père. Amen. Amen. Matthieu 18, peut-être si vous n'avez pas une Bible, parce que vous êtes visiteur, levez la main. Les placeurs vont vous l'amener et ils vont se faire un plaisir de la tourner pour vous dans Matthieu 18. Et nous regardons ensemble ce matin, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, spécialement les versets 21 à 35. Alors ceux qui attendent que je me tourne vers les versets 15 à 20, vous allez attendre encore deux semaines. On va garder un peu le suspense. Je pensais couvrir ça cette semaine, mais il y a tellement dans ce passage. Et dans deux semaines, j'espère aller voir aussi d'autres textes du Nouveau Testament pour voir comment l'apôtre Paul a appliqué Matthieu 18, 15 à 20. Alors dans deux semaines, on va essayer de s'étendre un petit peu sur comment est-ce que l'Église doit vivre cela maintenant, concrètement en 2009, comment on doit le vivre ici comme communauté, comme Église de l'espoir. Les disciples, la semaine dernière, pour nous, ont abordé Jésus avec une grande question. Ils sont arrivés à Jésus, ils ont dit, « Jésus, qui est le plus grand dans ton royaume? » Qui est le plus grand, Seigneur Jésus, dans ton royaume? Ça sous-entend évidemment, après toi, Jésus. Mais qui est le plus grand dans ton royaume, Jésus? Et Jésus a répondu, « Si vous faites partie de mon royaume, vous devez réaliser que vous êtes tous des enfants de Dieu. Si vous faites partie du royaume de mon Père, du royaume des cieux, si vous êtes des fils et des filles du royaume, vous devez réaliser que vous êtes tous des petits-enfants dans le royaume de mon Père. Mon Père céleste aime ses petits-enfants, il vous aime tous. » Ce n'est pas exactement ce que les disciples cherchaient à entendre. Mais Jésus leur dit, alors apprenez à vous aimer humblement, prenez soin les uns des autres, cherchez à vous aimer, à être affectueux, à être attentionnés les uns aux autres. Jésus va même jusqu'à dire, vous devriez même faire attention. Le monde sera une pierre d'achoppement pour certains de mes enfants. Le monde scandalisera certains de mes enfants. Vous devriez faire attention de ne pas scandaliser un seul de mes petits-enfants. Et si dans votre propre vie, il y a des choses qui seraient pour vous une occasion de chute et de surcroît pour certains de mes petits-enfants, vous devriez être prêt à renoncer à tout cela. Jamais avoir une attitude de mépris les uns envers les autres parce que vous êtes tous de petits-enfants dans le royaume de mon Père. Ainsi, on a vu la semaine dernière que les chrétiens apprennent à avancer dans la vie et trouver confiance pour affronter les difficultés de la vie, affronter les épreuves, non pas en se gonflant le torse, comme on l'apprend généralement, comme on est même tenté de l'enseigner à nos enfants puis de leur dire, écoute, aie confiance en toi, t'es capable. Vas-y, mon Yannick, t'es le meilleur, lâche pas. Les chrétiens apprennent à avancer dans la vie, à faire face aux épreuves de la vie, non pas en se gonflant le torse, en ayant confiance en eux-mêmes, premièrement, mais en levant les yeux vers le Père céleste et en discernant dans le regard du Père un amour inconditionnel qui nous donne confiance parce qu'on sait que nous avons été aimés du Père. Notre confiance pour faire face à la vie ne vient pas de nous-mêmes, mais du regard que le Père a déposé sur nous. Notre confiance pour faire face aux épreuves ne vient pas de nous-mêmes, comme si on avait à prouver qu'on était le meilleur dans le royaume, qu'on est le plus compétent, capable. Non, nous avons appris, en devenant chrétiens, que nous n'étions même pas capables de nous sauver nous-mêmes, mais que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, non par nos œuvres, incapables. Pour devenir chrétien, il faut que tu sois capable de dire incapable. Et à ce moment-là, tu peux apprécier la grâce et l'amour de Jésus-Christ. Nous sommes de petits enfants qui avons été aimés par Dieu. Ma valeur ne vient pas du fait que je suis le meilleur dans le royaume. Vous voyez ce qu'il y avait derrière la question des disciples? Ma valeur ne vient pas du fait que je suis le meilleur dans le royaume. Ma valeur vient du fait que Dieu m'a aimé d'un amour parfait et inconditionnel. C'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Dieu m'a accordé la grâce de m'aimer, moi, malgré mes fautes, malgré mes erreurs, malgré tous mes péchés. Dieu m'a accordé la grâce de déposer sur moi un regard d'amour rempli de charité, d'affection et de m'appeler son enfant. Pas parce que je suis le meilleur, parce qu'il m'a aimé, parce qu'il a fait de moi son enfant. Ainsi, ça me suffit. Ça définit mon identité. Il n'y a aucun besoin entre nous d'avoir des compétitions, d'avoir des guéguerres pour savoir lequel est le meilleur, pour affirmer qu'on a de la valeur. On n'a plus besoin de ça. Je sais que j'ai été aimé du Père. Je n'ai rien à prouver. Ma valeur vient tout simplement du fait que Jésus m'a aimé dans sa grâce et que le Père va pourvoir à tous mes besoins et qu'il prend soin de moi. Ce qui me comble, ce n'est plus ma position. C'est la grâce du Père envers moi. Le Père a déposé sur nous un regard d'amour, un regard de grâce. Et il a fait de nous ses enfants en nous faisant grâce. Lorsqu'on parle de l'amour du Père, on parle spécialement de la grâce que le Père nous a faite. Frères et sœurs, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous faites partie de cette communauté, vous êtes une personne graciée. Nous sommes une communauté de gens graciés. Est-ce que vous connaissez cette expression « être gracié » Vous savez ce que ça veut dire? Je vais vous donner la définition qu'on trouve dans le dictionnaire Antidote. Antidote dit d'une personne graciée, gracier quelqu'un, c'est réduire ou annuler la peine d'un condamné. Nous sommes, tous ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, tous ceux qui sont des fils et des filles du royaume, tous ceux qui se disent chrétiens et qui ont cru véritablement dans l'évangile de Jésus-Christ, une communauté de gens graciés. Une communauté de la grâce. C'est ce que nous sommes. C'est ce qui nous définit. Et lorsque nous nous regardons les uns les autres, je dois voir un condamné gracié. Et quand je me regarde dans le miroir, je dois voir un condamné gracié, libéré, dont la peine a été annulée. Nous sommes une communauté de gens graciés. La semaine dernière, à la réunion annuelle de cette assemblée, cette église, cette communauté de gens graciés a nommé deux jeunes hommes comme anciens. Laissez-moi faire une application avec ce que je viens de dire là. Vous avez nommé deux jeunes hommes comme anciens, déjà, hein? Jeunes, anciens, OK? Pas jeunes dans la foi. Pas jeunes dans la foi, on a veillé à ça. Vous avez nommé deux jeunes hommes comme anciens, pasteurs, évêques. C'est des synonymes dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'en nommant ces gens-là, ces deux frères-là comme anciens pasteurs évêques, bien nous les avons élevés à un rang honorable. C'est ce que Paul dit dans Timothée. Parlant du diacre et certainement de l'ancien, il parle d'un rang honorable. Est-ce qu'on n'a pas élevé ces deux hommes-là à un rang honorable en les nommant anciens? Je vous rappelle ce que la lettre aux Hébreux dit dans le Nouveau Testament. Concernant les conducteurs de l'Église. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. C'est pas rien, c'est tout un texte. Cette Église, moi le premier, en nommant Alexandre et Michel comme anciens, pasteurs, évêques, nous nous sommes engagés à avoir de la déférence envers eux. C'est ça qu'on a fait. Oh, on les a élevés à un rang honorable. Je suis sûr que Michel ne se regarde pas souvent dans le miroir en disant « On me doit de la déférence. » Mais en fait, c'est justement pour cette raison-là, parce que Michel et Alexandre ne se regardent pas dans le miroir en disant « On me doit de la déférence. » que le conseil des anciens était en paix et convaincu de vous les recommander comme anciens. Nous les avons élevés à un rang honorable, cela ne fait aucun doute. Mais parce que nous les connaissons intimement au conseil des anciens, et par vos témoignages, vous l'avez confirmé aussi, nous pouvons dire qu'Alexandre et Michel ne se définissent pas par cela. Parce qu'ils ont saisi la grâce de Dieu envers eux. Et lorsque Michel et Alexandre se regardent dans le miroir le matin, ce qu'ils voient, ce ne sont pas des hommes élevés à un rang honorable. Ce sont des gens graciés. Ils ont été saisis par la grâce de Dieu, manifestée envers eux en Jésus-Christ. Et ils ont été brisés par leurs péchés. La semaine dernière, plusieurs témoignages ont dit que ces deux jeunes hommes-là sont humbles. Ça ne leur est pas naturel, je peux vous l'assurer, parce que naturellement, nous sommes tous des orgueilleux. Mais si ces hommes grandissent tranquillement en humilité, c'est parce qu'ils sont régulièrement brisés par leurs péchés. Vous comprenez?
C'est parce qu'ils méditent sur cette vérité qu'ils ont été graciés. Et c'est ce qui fait que j'étais en paix de vous les recommander comme anciens. C'est parce que leur identité ne se trouve pas dans le fait qu'ils ont été nommés anciens. Mais leur identité, ce qu'ils voient le plus à leurs propres yeux, c'est la grâce qui a été manifestée à leur égard en Jésus-Christ. Nous sommes une communauté de gens graciés. C'est ça notre identité. C'est ce qui nous caractérise. C'est ce qui nous donne confiance et ce qui définit chacun de nos comportements, ce qui doit définir chacun de nos comportements les uns envers les autres. Une communauté de gens graciés. Et c'est ça que Jésus révèle à Pierre ici dans le passage. Pierre pose une bonne question à Jésus et lui dit, « Écoute Seigneur, je sais que ton Église, ton royaume doit être caractérisé par l'amour. Ça, j'ai compris cela. Tu es tellement, tellement bon, tellement patient avec nous. Ça doit être rempli d'amour, rempli de pardon, ça c'est clair. » Et Pierre pose une question sensée quand même. Il dit, « Quand est-ce qu'on s'arrête? » On voudrait quand même pas se laisser abuser. Quand est-ce qu'on s'arrête, Seigneur? Quand est-ce qu'on peut dire, j'ai été généreux, j'ai été bon, maintenant c'est assez? C'est ça la question de Pierre, non? Et on pourrait aller un peu plus loin dans les textes pour voir que Pierre allait déjà plus loin que les standards dressés par les rabbins. Bien des rabbins disaient 5 fois. 5 fois tu pardonnes la même faute au même frère. Certains allaient même jusqu'à dire 5 fois dans la même journée. Bon, Pierre en met un peu plus, 7 fois. C'est bon? Et Jésus répond de manière toute simple. Il dit, Pierre, ce ne sera jamais le temps d'arrêter. Tu ne pourras jamais cesser de pardonner. Jamais. Parce que tu n'auras jamais à pardonner autant que ce que Dieu t'a pardonné en Jésus-Christ. Tu n'auras jamais à pardonner autant que ce que Dieu t'a pardonné en Jésus-Christ. Et je peux vous assurer que 60% de la salle ici ce matin ne croit pas cela. C'est tellement dur à croire. Tu comprends. Tu ne sais pas, Seigneur, ce que j'ai vécu. On rationalise, hein? Ah non, non, c'est vrai, t'es allé sur la croix. Mais dans le fond de nos tripes, on ne croit pas cela. Jamais, parce que tu n'auras jamais à pardonner autant que ce que Dieu t'a pardonné en Jésus-Christ. Je vous le dis, on ne croit pas cela. Si on le croyait, ce serait beaucoup plus simple. Et c'est là que Dieu veut nous conduire, c'est clair. Notre sanctification ressemblée à Jésus-Christ va impliquer que l'Esprit va vous conduire là. Et soyez en paix, je suis en paix, il va le faire. Pas parce qu'on est bon, parce qu'il l'a promis. Il va nous conduire là. Dans l'histoire que Jésus raconte à Pierre, ici, il est question d'un serviteur qui doit une somme absolument effarante. Énorme, c'est colossal ce qu'il doit. On parle de millions de dollars, mais probablement avec l'inflation, les commentateurs ont tendance à parler plutôt de milliards ou d'un milliard de dollars. On ne sait pas si Jésus est juste en train de faire comme il fait parfois, une espèce d'exagération pour souligner son point avec un surligneur, ou si Jésus est en train de faire référence à un serviteur particulier. C'est un roi qui a des ministres sous sa gouverne, et on ne parle pas d'une démocratie ici. Chacun de tes ministres sont tes serviteurs si tu es le roi. Et donc, il y avait la possibilité, si tu avais un empire absolument énorme, d'avoir d'autres rois comme ministres. Et si moi j'étais en train de diriger tout l'empire romain et qu'on m'appelait César, bien le roi Hérode était l'un de mes serviteurs. Et s'il devait m'envoyer chaque année 100 millions de dollars en impôts à percevoir et qu'il n'arrivait qu'à en livrer 50 millions, chaque année, sa dette augmentait personnelle envers moi de 50 millions de dollars. Est-ce que c'est ça ou simplement une exagération? Je ne sais pas, les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Mais ce que Jésus veut souligner, ça c'est très clair, c'est que la somme est colossale. Lorsqu'on parle des talents, on parle de mesures qui ont servi à la construction du temple. David a donné tant de talents pour la construction du temple. C'est une mesure de monnaie qui est énorme, qui est très, très grande. Jésus veut simplement illustrer que la dette que nous avions envers Dieu est impossible à rembourser pour nous. C'est ça le point que Jésus veut faire ici, c'est simple. Et comme ce mauvais serviteur, avant de saisir la grâce de Jésus-Christ, nous croyons tous que nous étions capables de rembourser cette dette-là. Le salut par les œuvres, c'est être convaincu que tu es capable de rembourser cette dette-là. C'est simplement ça. Mais Jésus veut illustrer le fait que nous avons une dette que nous ne serons jamais capables de rembourser par nous-mêmes. Maintenant, Dieu est le roi dans cette histoire, a été ému en entendant le pécheur lui demander pardon. Voyez, je transpose tout simplement. Dieu qui est représenté, ou Jésus qui est représenté par le roi dans cette histoire, a été ému en entendant les supplications du pécheur qui demandait pardon. Et c'est ça l'image qu'on a ici. Cet homme qui supplie le roi de patienter, c'est le pécheur qui demande à Dieu de lui pardonner ses péchés. Est-ce que vous êtes capable de vous voir? Et j'espère que vous avez eu cette grâce-là. Est-ce que vous êtes capable de vous voir lorsque vous étiez en train de pleurer pour demander à Dieu de vous pardonner vos péchés? Et c'est certainement arrivé plus d'une fois, et ça va se reproduire encore. Parce que nous nous surprenons nous-mêmes à faire et à dire les choses qu'on n'aurait même jamais pensé être capable d'avoir comme geste et comme action, ou comme pensée, ou comme parole. Est-ce que vous vous voyez, au moment de votre conversion, supplier Dieu de vous pardonner vos fautes parce qu'elles sont tellement grandes que vous ne voyez pas comment il pourrait le faire? J'espère que vous avez eu cette grâce. Et si ce n'est pas le cas, ça va venir, je vous l'assure. Plus vous allez contempler la croix, plus vous allez saisir l'amour de Christ à la croix pour vous, plus vos péchés vont être humiliants pour vous. Jésus nous dit que le roi a été ému de compassion et il a effacé la dette. Je sais qu'on n'est pas familier avec le vieux français, puis lorsqu'il dit qu'il a remis la dette, dépendamment de vos versions, des fois ça peut nous donner l'impression qu'il a juste reporté la dette. Dans le grec, c'est encore plus clair que ça. Il y a deux termes qui sont là. Il a laissé aller le débiteur, et il l'a pardonné. Il a effacé la dette qu'il y avait envers lui. Le roi a été ému de compassion et il a effacé la dette. Il savait très bien que ce serviteur ne serait jamais capable de rembourser sa dette. Alors il a encaissé une perte. Il a effacé la dette entièrement. Il s'est tourné vers son trésorier et il lui a dit, cette somme-là qui est absolument extraordinaire, tu vas l'effacer. Son trésorier s'est tourné vers lui puis il a dit, non, on peut pas, on a besoin de cet argent-là. C'est énorme ce qu'il nous doit. Puis le roi lui a dit, tu effaces cette dette-là complètement. Je le prends à mon compte. Compte à recevoir, disparu. Manque à gagner, perte encaissée. C'est ça qu'il a fait ici. Simplement par compassion, parce qu'il savait que ce serviteur ne serait jamais capable de rembourser ça. Il l'a gracié. Il a annulé la peine qui était devant lui. Il l'a gracié, c'est ça qu'il a fait ici. Nous sommes une communauté de gens graciés. Des mécréants, des méchants, des pécheurs, des menteurs, des adultères, remplis de convoitises, blasphémateurs, graciés, dont la peine a été effacée. Et c'est ça qu'il a fait. Maintenant, l'histoire nous apprend que cet homme n'a jamais saisi ce qui s'était produit dans sa vie. S'il avait saisi la grâce du roi, il aurait dû être bouleversé. Cette expérience-là, s'il avait saisi la grâce du roi, cette expérience aurait dû le transformer à jamais. Voici ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû inviter toutes les personnes qui lui devaient de l'argent. Si, comme je le pense, c'était un espèce de ministre, il y avait bien des gens qui lui devaient de l'argent aussi, pas seulement cette personne qui l'a croisé. Il aurait dû inviter ces gens-là, organiser un grand festin, et puis chacun des invités, qui auraient été des gens qui lui devaient de l'argent, serait allé à ce festin inquiet, se demandant pourquoi ils sont invités. Chaque fois qu'il le croisait dans la rue, détournait le regard pour être certain de ne pas se faire demander de rembourser tout de suite et maintenant. Et puis en arrivant à ce festin, ils auraient vu que tous les gens dans la salle sont des gens qui lui doivent de l'argent. Il y a une espèce de buzz qui aurait commencé à courir dans la salle avant que l'autre se présente. Les gens auraient commencé à se dire, « Je pense qu'il nous a fait venir ici pour nous torturer un peu plus. Il nous gâte, mais après ça, il va exiger son dû. » Et s'il avait été bouleversé par cette grâce qui lui avait été faite, qu'est-ce qu'il aurait fait à ce moment-là? Il aurait commencé à leur raconter ce qu'il a vécu dans sa journée. Il aurait raconté à tous ces gens qui lui devaient quelque chose la grâce que le roi lui avait faite en effaçant une dette incroyable que finalement, il réalise qu'il n'aurait jamais pu rembourser par lui-même. Et il aurait terminé ce festin-là en disant, « Écoutez, je ne peux faire autrement. J'efface toutes vos dettes aujourd'hui. Vous êtes libres. La grâce que j'ai reçue, je vous la fais à mon tour. Vous êtes entièrement libres de partir d'ici. » Mais cet homme n'a jamais saisi la grâce qui lui a été faite. Il n'a jamais compris le geste du roi. Il n'a jamais été bouleversé. Il n'a jamais été transformé. Il est resté aussi dur qu'avant. Ne saisissant pas la grâce, il ne pouvait devenir gracieux. Ne saisissant pas la grâce, il ne pouvait devenir gracieux. Et Jésus dit une parole très sévère ensuite, parce que ce serviteur, plutôt que de faire grâce, est demeuré dur, implacable, incapable de faire grâce. Je vous relis les versets 32 à 35. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Sous-entendu, éternellement. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est des paroles dures que Jésus prononce ici. Ce sont des paroles extrêmement dures que Jésus prononce. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. C'est des paroles dures, mais est-ce que vous ne trouvez pas que ça ressemble au début du chapitre 18, verset 3? Regardez avec moi. Les disciples sont arrivés avec une question. Lequel est le plus grand dans le royaume? Mais Jésus leur a dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Des paroles drôlement dures, ça. « Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Par la grâce de Dieu, nous sommes appelés à devenir comme ses petits-enfants et saisir la grâce. Jésus n'est pas en train d'enseigner ici qu'on doit gagner notre ciel à coup de pardon, d'accord? Jésus n'est pas en train de dire, bien, pardonne, pardonne, puis tu vas gagner ton ciel en faisant cela. Ce n'est pas ça qu'il est en train de dire. Le Nouveau Testament n'enseigne pas ça, Jésus n'enseigne pas cela. Mais Jésus est en train de dire, si tu as été saisi par la grâce de Dieu, si tu as compris l'évangile de la bonne nouvelle, du pardon qu'il y a en Jésus-Christ, pardonner n'est pas optionnel. Pardonner tout le temps, infiniment, n'est pas optionnel. C'est un fruit, un résultat de la grâce de Dieu envers toi. Et ce thème-là revient constamment dans l'évangile sous Matthieu. Jésus ne veut pas que nous nous fassions croire à nous-mêmes que nous avons saisi la grâce de Jésus-Christ sans porter de fruits pour arriver un jour au jugement dernier devant Dieu et qu'il nous dise « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Tout simplement parce qu'on s'est berné et on s'est fait croire. Il va en être ainsi jusqu'à la fin du royaume de Dieu. Il va en être ainsi dans le royaume de Dieu jusqu'à la fin. L'ivraie, le bon grain, même à l'intérieur de l'Église, des gens qui vont être chrétiens, des gens qui vont se faire croire qu'ils sont chrétiens. Ils apprennent à vivre avec les manières des chrétiens. Ils apprennent les chants, ils apprennent les pratiques, les coutumes, les us et coutumes du christianisme. Côtoient les chrétiens. Ça améliore un peu parce qu'il y a tellement de bons principes dans la parole qu'en appliquant les principes dans notre vie, on peut vivre un peu mieux, marcher un peu mieux, sans jamais être profondément bouleversé à l'intérieur, renversé, vivre cette conversion de pensée, cette conversion de cœur, recevoir ce cœur nouveau, recevoir l'Esprit de Dieu qui vient révolutionner complètement ta manière de vivre. Qui vient changer tous tes paramètres de voir la vie, qui vient changer tous tes comportements envers les autres. Et Jésus nous met en garde ici. Si vraiment vous êtes un fils et une fille du royaume, pardonner n'est pas une option. Ça va de soi, ça coule de source. Alors tu veux savoir si tu as saisi l'Évangile? C'est dur ce que je vais vous dire là. Tu veux savoir si tu as saisi l'Évangile, si tu as compris la grâce qu'il y a en Jésus-Christ, regarde comment tu te comportes généralement devant ceux qui t'offensent, ceux qui te blessent, ceux qui pêchent contre toi. Qu'est-ce qui te caractérise? L'amertume? Le non-pardon? La rancœur? Ton cœur devrait être troublé si c'est ça. Je ne dis pas que tu n'es pas chrétien. C'est pas ça que je dis. Je ne dis pas que tu n'es pas chrétien. Ton cœur devrait être profondément troublé. Chaque fois que je lis la première lettre de Jean, mon cœur est troublé. Parce que Dieu expose mon cœur, mes combats, mes luttes. Puis je m'en vais au Seigneur, mais je dis, « Mais Seigneur, est-ce que je suis chrétien? » Presque chaque fois que j'ai lu un Jean, c'est ça qui s'est passé. Là, je m'attache à la grâce, puis je dis, « Seigneur, je sais parce que ton esprit me parle et que je suis dans cette poursuite de la sainteté. » J'accepte, Seigneur, comment on vit dans ton royaume et par ta grâce, tu vas me transformer pour que je marche selon les lois du royaume, Seigneur. Je suis dans cette poursuite. Je ne suis pas indifférent au péché qui reste dans ma vie. Je cherche la grâce pour être transformé, pour devenir une personne caractérisée par le pardon, bouleversée par la grâce qui fait grâce. Gracié, gracieux. Mais si vous êtes caractérisé par l'amertume, par un non-pardon, par un calepin de notes qui tient en note toutes les offenses, votre cœur devrait être profondément troublé, profondément bouleversé. Peut-être que vous n'êtes pas chrétien. Peut-être que vous avez juste appris comment marche un chrétien. Vous avez appris les us et coutumes de l'Église. Et ça s'arrête là. Mais vous n'avez pas encore saisi la grâce qui est en Jésus-Christ. Ou peut-être encore que vous êtes chrétien, vous avez saisi la grâce, vous avez besoin de vous approcher de la croix plus souvent et d'aller méditer sur la croix de Jésus-Christ, sur la grâce qu'il y a là. Vous avez besoin de grandir dans votre appréciation de ce que Jésus a fait sur la croix pour vous, afin que cet amour vienne bouleverser vos vies, vienne transformer vos vies. Jésus sait de quoi il parle. Voyez-vous, dans cette histoire que Jésus raconte, il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer, il y a toujours un coût à encaisser lorsqu'on pardonne. Jésus l'illustre magnifiquement ici. Il y a eu un coût, un prix, une perte, une douleur à encaisser pour le roi qui était énorme. Je suis certain, moi, que son trésorier, son financier n'était pas d'accord avec cette décision-là. La perte était énorme. Et il y a toujours un coût à payer pour pardonner. Il y en aura toujours un. Parce qu'il y a eu une offense. Parce qu'il y a eu un péché. Parce qu'il y a eu une marque, une blessure qui a été infligée. Alors, il y aura toujours un coût à payer pour pardonner. Jésus sait de quoi il parle. Ces marques sont dans ses mains, dans son côté, pour l'éternité. C'est ce que nous allons célébrer. Nous allons adorer l'agneau pour l'éternité et nous allons voir pour l'éternité la douleur qu'il a encaissée pour que nous soyons pardonnés. Il y a toujours un coût à payer pour pardonner. Il y a une transaction qui doit être faite au pied de la croix lorsque tu décides de pardonner à quelqu'un. Tu effaces une dette. Tu encaisses une douleur. Tu effaces un péché. Et tu décides de ne plus en tenir compte par la grâce de Dieu. Pardonner est non négociable dans la communauté des graciés. Pardonner demande d'accepter une perte, d'accepter de souffrir une perte. Et troisièmement, regardez ce que Jésus dit à Pierre. Jésus dit à Pierre, « Pierre, tu ne dois jamais oublier que tu es dans la position de celui qui devait des millions au roi. » Dave Harvey, dans le livre « When Sinners Say I Do », on sert dans le cours de vie de couple, c'est lui qui m'a éveillé à comprendre cet aspect-là de l'histoire il y a quelques années. Dans l'histoire, où est-ce que Pierre devait se voir? C'est quel son rôle, le petit débiteur ou le gros débiteur? Et voyez-vous, lorsque nous ne sommes pas prêts à pardonner à quelqu'un, c'est que d'une certaine manière, dans notre esprit, on a inversé les rôles. Et on voit celui qui nous a fait une offense dans la position du gros débiteur, du méchant serviteur qui a fait de grandes fautes. Et nous, de petites fautes, une petite dette à rembourser. Voyez, frères et sœurs, ce qui rend le pardon souvent si difficile, c'est que nous nous voyons comme ce petit débiteur. Cette personne à qui tu n'arrives pas à pardonner, il faut que tu la places à la bonne place dans l'histoire. Toutes ces gens contre qui tu as de l'amertume, il faut que tu les places à la bonne place dans l'histoire. Il faut que tu prennes le temps de te raconter l'histoire que Jésus a racontée à Pierre. Et si tu t'appelais Yannick, ça ressemblerait à ceci. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena Yannick, qui devait 10 000 talents. Comme Yannick n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, Esther et ses enfants, et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Yannick se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de Yannick le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, Yannick rencontra M. X ou Mme Y qui lui devait 100 deniers. Yannick le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » C'est l'histoire que vous devez vous raconter, frères et sœurs. Parce que c'est l'histoire que Jésus a racontée à un de ses disciples qui avait mal saisi le pardon dans la communauté des graciés. C'est l'histoire que nous devons apprendre à nous raconter chaque fois que quelqu'un nous fait une offense et que nous n'arrivons pas à le libérer de sa dette, à lui pardonner son offense. La semaine prochaine, on va voir pratiquement comment on le vit dans la relation avec la personne. On va le voir dans 2 semaines, je m'excuse. On va aller voir les versets 15 à 20. Mais vous n'arriverez pas à vivre les versets 15 à 20 si vous ne vous racontez pas cette histoire-là. Je l'ai mentionné la semaine dernière, Jésus adresse un sujet délicat dans les versets 15 à 20 et il a entouré ces versets de principes essentiels. D'humilité, d'amour, de persévérance à aimer, de pardon non négociable. Frères et sœurs, dans la communauté de la grâce, nous sommes tous des petits-enfants qui avons été graciés par notre Père céleste. Notre Père a encaissé une perte en donnant son Fils Jésus-Christ en pâture aux loups, aux pécheurs, à tous ces gens qui ne saisissaient pas la grâce qui leur était offerte. Il nous a graciés. Et à celui qui saisit cette grâce qui nous est faite en Jésus-Christ, Dieu le transforme. Dieu le transforme progressivement pour faire de lui une personne gracieuse, qui apprend à pardonner 70 fois, 7 fois s'il le faut. Je ne vous dis pas que c'est facile. C'est très difficile. C'est un long cheminement. On ne doit pas abaisser les standards. De peur, et je sais que c'est dur ce que je dis ce matin, d'être surpris rendu de l'autre côté. Les fils et les filles du royaume entrent dans le royaume de Dieu par la grâce, parce qu'ils sont graciés, et ils sont transformés par l'Esprit de Jésus-Christ pour apprendre à devenir des personnes gracieuses, de plus en plus, de jour en jour. Ayez confiance si vous n'êtes pas capable de le faire actuellement, parce que Jésus a promis qu'il allait compléter le travail, qu'il allait le terminer. Mais soyez repentant aussi si vous n'arrivez pas à le faire maintenant. Ne mettez pas cela de côté. Et si ce matin, Dieu vous parle par son esprit, allez au pied de la croix, contemplez la grâce, racontez-vous cette histoire. Et je vous assure que Dieu, dans sa grâce, va transformer votre cœur et vous allez apprendre à devenir des personnes gracieuses. Et les gens qui vont venir nous visiter, qui vont apprendre à nous côtoyer, vont voir l'amour que nous avons pour les uns pour les autres. Un amour qui ne ferme pas les yeux. Un amour qui pardonne. Un amour qui ne ferme pas les yeux sur le péché. On va le voir dans 2 semaines. Un amour qui poursuit même le pécheur qui s'égare. Mais un amour qui pardonne. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu m'as fait grâce et mon cœur est rempli de paix ce matin. Ma paix ne vient pas, Seigneur, de ce que j'ai une toute petite dette envers toi. Ma paix ne vient pas, Seigneur, parce que je serais un bon gars. J'ai appris et j'apprends encore souvent, Seigneur, que je ne suis pas un bon gars. Mais un pécheur. Et pourtant, Père, je m'en vais dans la vie, le cœur en paix, le cœur dans la joie, le cœur léger, parce que je sais que j'ai été aimé du Père. Je suis confiant, Seigneur, parce que je sais que ton amour est inconditionnel. Elle ne dépend pas de mes performances. Ta grâce est descendue sur moi parce que tu m'as fait grâce. Et tu m'as accueilli dans ta maison, un fils d'adoption, un fils légitime. Et Seigneur, tu m'enseignes jour après jour à vivre dans cette communauté de la grâce. Tu fais de moi de plus en plus une personne gracieuse et je t'en bénis, Seigneur. J'aimerais te prier, Père, pour mes frères et sœurs, certains d'entre eux qui ont subi des offenses petite ou grande, mais qui leur semble impossible de pardonner. Ils ont été saisis par ta grâce, mais n'ont pas encore fait le lien comme Pierre entre ta grâce et celle qu'ils doivent manifester. Et Seigneur, c'est un changement de cœur, c'est un changement de pensée, c'est un miracle, c'est une conversion, c'est une œuvre de l'Esprit. Lorsqu'un pécheur apprends à être gracieux. Oh, je te prie, Seigneur, pour ces précieux petits-enfants qui sont prisonniers de cette amertume, de ces rancœurs, de ces offenses. Viens leur faire savourer ta grâce, Seigneur. Aide-leur à se raconter l'histoire que tu as racontée à Pierre. Viens, Seigneur, dans ta bonté, viens au secours de notre incrédulité, Seigneur. C'est difficile pour nous. Mais tu es bon et tu nous accueilles et tu nous tends la main lorsque notre foi défaille et que nous commençons à nous enfoncer dans ces eaux. Tu fais grâce encore une fois et tu nous supportes. Je prie, Seigneur, j'aimerais entendre dans les années à venir des dizaines d'histoires, Seigneur. Et que cette Église soit témoin de cette grâce, que cette communauté soit caractérisée. Afin, Seigneur, que nos cœurs soient remplis d'assurance parce que nous voyons les fruits de l'Esprit dans nos vies. Et Seigneur, que ceux qui viendront nous voir, nous visiter, soient émerveillés par cette douceur et cette tendresse, cette sainteté et cette grâce. C'est en Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen. Amen.